Bienvenue dans l'accent des autres. Voici les grandes lignes de l'actualité francophone. C'est comme toutes les semaines votre rendez-vous avec les médias francophones publics. Radio-Canada, France Inter, RFI, la radio-télévision suisse et la RTBF. On va commencer avec les suites de l'élection présidentielle aux États-Unis. Élection suivie de très près partout dans le monde, mais peut-être un peu plus encore au Canada, Benoît Audet.
Oui, et on se demande maintenant si le changement de ton attendu à Washington va améliorer les relations entre les deux pays.
La France, elle, s'est souvenue cette semaine des attentats de novembre 2015, mais aussi des 50 ans de la disparition du général de Gaulle. Nous serons dans son fief de Colombey, les deux églises, dans quelques instants. En Belgique, la situation sanitaire s'est améliorée en cette fin de semaine, mais un nouveau test se profile déjà, Jacques Crémers, celui de la reprise des cours.
Les élèves reprennent les cours dès ce lundi 16 novembre, une rentrée en code rouge avec des différences importantes selon les établissements.
Et puis en Suisse, on va revenir sur cette spectaculaire affaire d'espionnage crypto. Elle a aussi profité à la Suisse, mais à l'insu de son gouvernement, Pierre-Anne Chauffat.
Un rapport parlementaire l'écrit noir sur blanc. Les renseignements helvétiques savaient, ils en ont tiré des informations, mais l'ont sciemment caché à l'autorité politique.
Enfin, sur le continent africain, Amélie Tullet, on retiendra ces tensions post-électorales en Côte d'Ivoire.
Avec une première rencontre pour briser le mur de glace entre le président Alassane Ouattara et le doyen de l'opposition ivoirienne, l'ancien président Henri Conan Bédier.
On commence donc avec les suites de l'élection de Joe Biden à la présidence des États-Unis. Le président élu a entamé la transition qui va le mener à la Maison-Blanche, même si Donald Trump refuse toujours de lui concéder la victoire. Joe Biden a commencé à constituer son équipe. Il a passé ses premiers coups de fil à des chefs d'État et de gouvernement à l'étranger. Et Benoît Audet, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a eu l'honneur de s'entretenir le premier au téléphone avec Joe Biden.
Un appel de courtoisie, un premier contact entre les deux leaders. Voici ce qu'avait à dire Justin Trudeau à ce sujet.
Nous allons continuer de travailler avec l'administration actuelle jusqu'en fin janvier. Et suite à ça, on va travailler avec la nouvelle administration.
Voilà donc le premier ministre canadien. Il faut dire, Benoît, que les relations entre le Canada et les États-Unis sont plutôt tendues depuis 4 ans.
Oui, les sujets de discorde n'ont pas manqué. Le président Trump n'a pas hésité à s'en prendre publiquement au Canada. Il a notamment forcé la renégociation de l'accord de libre-échange nord-américain. Il a aussi imposé de nombreux tarifs sur les importations de plusieurs produits canadiens, comme l'aluminium ou l'acier. Donc, la perspective de relations plus cordiales est bien accueillie à Ottawa.
Mais cela dit, Benoît, il ne faut pas s'imaginer que les relations seront forcément au beau fixe au cours des prochaines années.
Non, il faut rappeler que la frontière entre les deux pays est toujours fermé en raison de la pandémie, sauf pour le passage des biens essentiels au commerce, et on ne voit pas encore quand il rouvrira. Une administration Biden pourrait aussi mettre de l'avant des mesures protectionnistes qui pourraient nuire aux exportations canadiennes, mais disons que pour le moment, on s'efforce davantage de mettre l'accent sur la bonne entente entre les deux leaders.
Et une bonne entente avec les 27, c'est aussi ce qu'espèrent les responsables de l'Union européenne, Jacques, l'Union qui insiste sur sa volonté de rebâtir un partenariat solide avec les États-Unis.
Oui, parce que les années Trump ont été marquées par des tensions avec l'Union européenne. Le président sortant l'a considéré plutôt comme une ennemie. Il est aussi adversaire du multilatéralisme. Les Européens espèrent avec le président démocrate un nouvel élan, un nouveau partenariat transatlantique, notamment en matière de climat, de santé ou encore sur le terrain du numérique.
À noter aussi ces réactions du côté du continent africain, Amélie, plusieurs chefs d'État ont réagi à l'élection de Joe Biden.
Oui, par exemple, le président du Niger, Mahamadou Issoufou, espère un renforcement de la coopération avec les États-Unis qui ont une base militaire sur le sol nigérien pour contribuer à la lutte contre le terrorisme. Le président du Sénégal, Macky Sall, lui, adresse ses félicitations sur Twitter à Joe Biden et Kamala Harris. Même chose de la part de l'Ivoirien Alassane Ouattara.
Ses relations avec les États-Unis auront été plutôt orageuses. Le général de Gaulle est décédé il y a 50 ans, l'occasion pour l'actuel président français de se rendre cette semaine à Colombey, les deux églises. C'était le fief du général de Gaulle. Emmanuel Macron s'est incliné sur sa tombe. Il a ensuite présidé la cérémonie militaire au pied de l'immense croix de Lorraine qui domine les vignes et les champs environnants. Colombelles-les-Deux-Églises, village de 700 habitants en Haute-Marne, lieu de pèlerinage pour tous les admirateurs du chef de la France libre pendant la Seconde Guerre mondiale. Lui qui sera ensuite président de la République de 58 à 69. Yannick Falk s'est rendu à Colombelles-les-Deux-Églises cette semaine pour France Inter à l'occasion précisément de cet hommage au général de Gaulle.
Ni brouillard ni froid, mais c'est sous un grand soleil avec une douceur inhabituelle pour la Haute-Marne qu'Emmanuel Macron a effectué le pèlerinage de Colombelles, le deuxième de son quinquennat. Accueil républicain à la mairie, visite de la boisserie, la demeure familiale où le général de Gaulle a rendu l'âme il y a 50 ans tout juste, recueillement et dépôt de gerbes sur sa tombe, cérémonie militaire à la Croix de Lorraine, en présence de la maire de Paris, Anne Hidalgo, et d'Éric Piolle, le maire de Grenoble, au nom des villes compagnons de la libération. Le chef de l'État, accompagné de son épouse Brigitte et de 3 petits-enfants de Gaulle, 30 invités seulement, contexte sanitaire oblige, pas de messe, un village quasi désert, ce que regrette l'un des privilégiés du jour, François Cornu-Gentil, député LR de la Haute-Marne.
C'est effectivement un sentiment très particulier, parce que Colombelles, c'était la foule des gaullistes de base qui venait ici, dans cette France confinée, ce rassemblement d'élus à quelque chose de déconcertant, de pas très gaulliste. Parce que de Gaulle, justement, c'est pas les élus, de Gaulle, c'est pas les notables, de Gaulle, c'est le peuple.
Un déplacement sans discours présidentiel, mais un tweet ce matin, résilience et volonté, esprit incarné par Charles de Gaulle dans les moments de douleur comme ceux de gloire, 50 ans après sa mort, un message qui résonne dans l'actualité.
Voilà, un hommage donc dans une France confinée et ça nous amène aux suites de la crise sanitaire. En Suisse, d'abord avec vous Pierre-Han, la Confédération a débloqué des fonds supplémentaires pour s'assurer des doses de vaccins.
400 millions de francs suisses en tout. Après les contrats passés avec AstraZeneca et Moderna, le gouvernement négocie avec Pfizer, suite à ses résultats prometteurs, une stratégie de diversification pour augmenter les chances de disposer le moment venu du bon produit. Ce qui n'empêche pas la Suisse de jouer son rôle dans la collaboration internationale de lutte contre l'épidémie. Notre pays hébergera pour le compte de l'OMS un laboratoire de haute sécurité pour stocker et partager le matériel pathogène nécessaire aux recherches de traitement.
Et puis en Belgique, à présent, le nombre d'hospitalisations a commencé à baisser en cette fin de semaine. C'est un signe positif avant un nouveau test, Jacques, qui débutera ce lundi. C'est celui de la reprise des cours.
Reprise des cours, en effet, après un congé d'automne exceptionnellement long, d'une durée de 15 jours. C'est le retour à l'école pour les élèves du maternel et du primaire et dans le secondaire. Des régimes différents selon l'année d'études ou la nature de l'enseignement. Le mot d'ordre, c'est souplesse. Enseignement présentiel à 100% pour les élèves jusqu'en deuxième secondaire et pour les autres jusqu'en réto, ce sera 50% du temps à l'école et l'autre moitié à distance. Le volume global de présence est donc ainsi réduit à partir de la troisième secondaire et une présence minimale est assurée pour chaque élève.
Oui, cette reprise des cours, Jacques, ça veut dire à nouveau plus de déplacements et donc plus de contacts potentiels.
Ce qui pousse en effet les autorités politiques à ne pas modifier les règles en vigueur actuellement, soit un confinement plus strict jusqu'au 13 décembre. Vendredi, le comité de concertation, l'ensemble des gouvernements du pays a souligné que le nombre de patients Covid en soins intensifs reste très élevé sur un plateau, ainsi que le nombre de décès dus au Covid-19, avec une moyenne de 200 décès par jour la semaine dernière. Une extrême prudence reste donc de mise à la veille de la reprise des cours dans les écoles, ce qui aura certainement valeur de test avant un possible assouplissement des mesures.
L'accent des autres avec les médias francophones publics.
Retour en Suisse avec les suites à présent de l'affaire crypto et ce constat, le renseignement suisse a bénéficié des opérations d'espionnage de la CIA sans même que le gouvernement Pierre-Han ne soit au courant.
Vous vous souvenez peut-être, Olivier, de Crypto, cette société helvétique qui a vendu à une centaine d'États des machines de chiffrement truquées, permettant ainsi aux services secrets américains et allemands d'espionner des pays étrangers. Eh bien, suite à l'enquête menée par une commission parlementaire, on sait désormais que la Suisse était au courant de cette manipulation, mais aussi qu'elle en a profité. Et quand je dis la Suisse, cela s'arrête en fait au seul service de renseignement dont le directeur s'est bien gardé d'informer le conseiller fédéral en charge de la défense dont il dépendait.
Ça veut donc dire que l'autorité politique n'a rien su jusqu'au début de l'année dernière.
Exactement, et c'est bien cela qui inquiète la délégation parlementaire, cette forme d'État dans l'État qu'ont ainsi pu jouer les barbous helvétiques. N'avoir rien su n'excuse donc pas le gouvernement, au contraire, c'est son manque de curiosité et son manque de contrôle de ce service qui est pointé du doigt.
Et on peut l'imaginer, parmi les pays espionnés, cette information pourrait faire des dégâts.
C'est bien sûr la première répercussion politique possible. Le démocrate chrétien Charles Juillard est inquiet pour nos relations avec d'autres États.
Ça pourrait effectivement mettre en difficulté nos relations économiques, mais pas seulement, à une époque où nous avons plus besoin que jamais de pouvoir échanger en toute confiance avec les pays amis pour lutter efficacement contre la menace terroriste.
Et au-delà de ce constat, la gauche réclame, elle, une commission d'enquête parlementaire au pouvoir étendu pour clarifier notamment l'impact de l'affaire Crypto sur notre politique extérieure, d'autant que le chef des renseignements de l'époque est désormais secrétaire général du département des affaires étrangères.
Enfin, on va se quitter en Afrique avec, comme la semaine dernière, un retour sur la réélection d'Alassane Ouattara, une réélection confirmée cette semaine par le Conseil constitutionnel de la Côte d'Ivoire, Amélie.
Oui, c'était lundi. Alassane Ouattara est donc officiellement réélu pour un troisième mandat. Processus électoral contesté, on le rappelle, par une partie de l'opposition en Côte d'Ivoire. Des tensions politiques qui ont engendré depuis le mois d'août à plusieurs reprises des affrontements parfois meurtriers. Nouveauté de la semaine, Olivier, pour la première fois depuis plus de 2 ans, Alassane Ouattara et le doyen de l'opposition, l'ancien président Henri Konan-Bédier, se sont rencontrés pour, disent-ils, briser le mur de glace. Un rendez-vous d'une 40 minutes a eu lieu à l'hôtel du Golfe d'Abidjan. D'autres rencontres doivent suivre.
Et puis on notera aussi cette semaine la mort d'un ancien président au Mali.
Amadou Toumani Touré, militaire de carrière, ATT comme on le surnomme, faisait partie des officiers qui ont renversé Moussa Traoré en 1991. À la tête de la junte, Amadou Toumani Touré mène alors le Mali à des élections, puis il est élu lui-même plus tard en 2002. 10 ans après, en 2012, il est renversé à son tour par un putsch militaire dans un Mali alors déstabilisé durablement par les groupes armés dans sa partie nord.
Amélie Tullet donc pour RFI. C'est tout pour cette semaine. Votre rendez-vous avec l'accent des autres et les médias francophones publics se referme ici. Merci donc à RFI, à Radio-Canada, à la Radio-Télévision Suisse, à France Inter et à la RTBF. Et rendez-vous la semaine prochaine à la même heure.
L'accent des autres.